Nos auditeurs, le Fonds monétaire international ne va plus débloquer d'argent pour appuyer le budget 2006 du gouvernement congolais. Cette institution financière internationale a déclaré avoir constaté des dérapages dans la gestion de fonds déjà alloués au gouvernement. L'absence de cet appui budgétaire qui venait compléter le budget de l'État pourrait-il entraîner des risques majeurs? L'État congolais ne court-il pas le risque de ne pas être en mesure, au cours de cette année électorale, de tenir ses engagements pour, par exemple, financer certaines actions dans le domaine de la santé, l'éducation, de l'agriculture, les routes et autres domaines? Les auditeurs de Radio Okapi sont nombreux à réagir à cette décision du FMI. Pour Chuma Kasongo de Kalemi, c'est là l'inconvénient de vivre avec les aides étrangères. C'est le premier sabotage aux élections fait par les Occidentaux. Et depuis Goma, Faustin dit ceci, le FMI a bien fait. Sinon, ce gouvernement partant allait profiter une dernière fois de cette aide en la détournant, que le FMI réserve cette aide au gouvernement qui sera issu des élections. Comme invité, nous recevons aujourd'hui dans ces studios Marco Bangouli, qui est ministre de Finances. Bonsoir, monsieur le ministre.
Madame, bonsoir.
Xavier Marais, représentant résident du FMI en RDC. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Au cours de cette émission, nous serons également avec Lems Kamwanya, expert économique et chargé des projets au comité des pilotages de la réforme des entreprises publiques.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez poser des questions à nos invités? Par SMS, composez-le 081 051 57 78.
Encore une fois, bonsoir à vous tous qui êtes branchés sur Radio Okapi pour suivre cette émission. Le Fonds monétaire international ne versera pas la contribution promise pour soutenir le budget de l'État congolais cette année. Ce montant s'élève à 84 milliards de francs congolais, ce qui représente environ 190 millions de dollars américains, soit les 1/10 du budget 2006 de l'État congolais. Pourquoi cette décision du FMI de geler sa participation au budget de l'État congolais? Suivons cette analyse de Georges Kamoudjova avant que nos invités répondent eux-mêmes à cette question.
C'est mieux de connaître un peu la coopération actuelle entre le FMI et l'État congolais avant de répondre à cette question. Depuis 2002, la RDC bénéficie d'une facilité du FMI visant à éradiquer la pauvreté et à faire prospérer ses activités économiques. Le FMI prête de l'argent au gouvernement pour soutenir son économie. Si le gouvernement manque d'argent pour accomplir tel objectif, le FMI peut aussi l'appuyer en finançant une partie de son budget. Celui qui donne l'argent veut s'assurer que son argent est bien utilisé et celui qui en reçoit promet d'être sérieux. Par exemple, les deux se conviennent que la gestion des finances publiques doit être claire et transparente. S'il est prévu que telle personnalité ait 10 dollars au budget de l'État, il ne doit pas en prendre 50, qu'il ne faut pas imprimer beaucoup de billets de banque qui risquent d'augmenter les taux d'échange du franc congolais par rapport aux devises étrangères. Alors, dans ces accords, il est prévu aussi des réunions où l'on évalue si chacun a bien observé les règles du jeu. C'est ce que l'on appelle les revues. Et il devait y en avoir 6 avant fin mars 2006. La cinquième revue a eu lieu en août 2005 et le FMI avait prodigué des conseils au gouvernement. La dernière revue devait se tenir en mars dernier et elle n'a pas eu lieu. Le gouvernement n'aurait pas été en mesure de fournir les données nécessaires avant cette date. Pour le FMI, il n'est plus possible de continuer à donner son appui au budget de l'État. Cette institution estime par ailleurs que le gouvernement n'est pas transparent sur la gestion de l'argent et qu'il y a lenteur pour réaliser les réformes promises. Déjà dans la presse quinoise, il y a eu plusieurs interprétations. Certains estiment que le FMI, en prenant cette décision, craignait tout simplement de voir son argent financer les campagnes électorales de certains politiciens.
Merci, Monsieur Xavier Marais. Vous êtes représentant résident du FMI en RDC. Dans les cadres d'appui au budget, le FMI devrait donner au gouvernement 84 milliards de francs congolais, soit environ 190 millions de dollars américains. C'est ça que vous refusez de donner à l'État congolais?
Permettez-moi d'abord de corriger ce que vous venez de dire. Il est certain que le Fonds monétaire vient en appui à la mise en œuvre du programme économique du gouvernement. Ceci étant, les financements du Fonds monétaire international se font au niveau de la Banque centrale du Congo et servent effectivement à renforcer les avoirs en devises de la Banque centrale. Donc, d'une manière générale, nous ne finançons pas directement le budget de l'État. Qu'est-ce qu'il se passe?
Indirectement.
Non, non. Nous finançons uniquement la Banque centrale. Qu'est-ce qui se passe dans le cadre du programme économique du gouvernement que nous appuyons avec nos partenaires au développement qui appuient le programme? Il y avait effectivement dans le programme 6 revues qui ont été prévues. 5 revues ont été effectuées avec satisfaction et donc l'équivalent d'environ 830 millions de dollars ont été déboursés par le Fonds monétaire international. Une partie de ces financements à rembourser les arriérés qu'avait la République démocratique du Congo avec le FMI et une autre partie à renforcer les avoirs en devises étrangères que la Banque centrale a elle-même. Dans le cadre des revues, nous faisons effectivement la mise au point des politiques économiques et financières et dans le cadre de la dernière revue qui devait avoir lieu, la 6e revue, nous avons effectivement remarqué un certain nombre de dérapages par rapport au programme économique du gouvernement et nous avons recommandé au gouvernement de prendre quelques mesures de correction, ce qu'il a pris. Monsieur... Néanmoins, permettez-moi juste de terminer, nous sommes arrivés, l'accord qui permettait de financer la République démocratique du Congo est venu à expiration à la fin du mois de mars, avant que nous ayons pu compléter la 6e revue. Donc l'accord a expiré. Et comme le disait l'autre jour le gouverneur de la Banque centrale, la République a été hors délai. Donc il n'y aura pas, de façon pratique, le dernier versement du Fonds monétaire au titre de cette facilité, qui se monte simplement à 40 millions de dollars au niveau de la Banque centrale. Ce paiement ne pourra pas avoir lieu, mais nous allons engager, je pense, assez prochainement, en tout cas vers la fin de l'année, les négociations d'un nouveau programme qui devrait permettre de reprendre les appuis financiers du Fonds monétaire à la République démocratique du Congo.
Mais vous faites également des appuis budgétaires?
Non, pas
à la
du
RD
tout.
Congo?
Non.
Alors, l'argent, cet argent, ça c'est cette question. C'est une question de Jean-Baptiste à Goma qui veut savoir, cet argent de la FMI, est-ce un don ou un prêt en faveur de la RDC?
C'est un prêt.
C'est un prêt que vous octroyez donc au gouvernement congolais?
Voilà, à la Banque centrale, plus précisément.
Maintenant, pourquoi avoir pris la décision d'arrêter ces prêts? Cette participation.
Nous sommes arrivés à un point où l'accord qui nous liait avec la République du Congo est arrivé à expiration. C'est comme un contrat, si vous voulez, et le contrat a une date limite. Il se trouve qu'à cette date limite, la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire n'ont pas pu conclure la dernière revue qui aurait permis de débloquer les 40 millions de dollars avant la fin du mois de mars. Donc, comme l'accord n'existe plus, il ne peut plus y avoir de 6e revue. Ce qui n'empêche pas que les relations continuent, bien sûr. Et c'est à cet égard, et le ministre pourra vous le dire, que les autorités de la République démocratique du Congo ont demandé au Fonds monétaire de continuer le dialogue et de continuer, je dirais, la revue du programme économique du gouvernement de façon à pouvoir suivre ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et si nous avons une satisfaction commune de ce qui se passe, arriver très prochainement à de nouvelles négociations d'un nouveau programme. Voilà.
Et j'en profite pour accueillir donc Monsieur Lems Kamoignan, qui est expert économique et chargé de projet au comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques, qui va également participer dans cette émission. Je me tourne vers vous, Monsieur Marco Bangouli, vous êtes ministre des Finances. Jacques Muzingwa de Goma veut savoir quelles explications valables peuvent donner nos autorités vis-à-vis de cette mesure qui vient de prendre le FMI.
Merci beaucoup, madame. D'abord, il faut lever la confusion. Je crois que dans l'esprit, d'abord au travers de la question, dans l'esprit de beaucoup de gens, on confond le rôle du Fonds monétaire international. Et tout à l'heure, M. Marais vous a redressé, le Fonds monétaire ne finance pas les appuis budgétaires. Le Fonds monétaire n'a pas coupé les relations avec la République démocratique du Congo. Et pour cette année, comme elle vous dit, la 6e revue n'aurait financé que 40 millions de dollars à la Banque centrale. Et donc l'essentiel du financement que nous avons pour en appui au développement viennent des partenaires en développement, que sont la Banque mondiale, la BAD et d'autres. Et sur ce plan-là, on va s'étendre. Donc je voulais d'abord qu'on définisse le rôle du Fonds monétaire. Le Fonds monétaire nous assiste dans les conseils pour les aides que nous recevons de nos partenaires en développement, il n'y a pas eu dérapage des fonds alloués par le Fonds monétaire. Non, nous n'avons pas eu à détourner les fonds reçus du Fonds monétaire international.
Pourtant, le FMI avait déclaré qu'il y a eu dérapage dans l'exécution de...
C'est là où je dis, c'est une matière un peu barbative, les finances publiques. C'est pas à la portée de toute l'opinion publique, essayons de la simplifier. Quand il y a dérapage, ça n'a rien à voir avec le Fonds monétaire international. Un programme économique, c'est la volonté d'un gouvernement de réaliser dans son pays un programme. Ce programme n'a rien à voir que ce soit en appui ou pas avec le Fonds monétaire international. Et puisqu'un programme a besoin de financement, nous faisons appel à nos partenaires en développement que sont la Banque mondiale, la BAD et le Fonds monétaire pour la partie du compte d'exploitation de la Banque centrale qui lui vient à l'appui de la balance de paiement. Et donc, ce programme économique-là, quelquefois, nous pouvons avoir des difficultés, comme nous avons eu au 31 décembre 2005, nous n'avons pas pu avoir des critères satisfaisants en matière de notre endettement vis-à-vis de la Banque centrale, qui elle, est notre caissier. Nous avons eu la hauteur de nos réserves internationales était assez basse, ne nous permettait pas de faire face à un choc. Si on devait avoir un choc pétrolier, par exemple, pour nos importations, on était réduit à 2-3 semaines au lieu de 5 semaines. Mais cela n'a rien à voir avec le Fonds monétaire.
Lems Kamwanya, vous êtes expert économique et chargé des projets au comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques. Quelle est votre lecture de la situation, si vous pouvez nous éclairer un peu?
Merci beaucoup pour la parole. Moi, je crois que aujourd'hui, peut-être parce que nous utilisons des termes génériques, PEG, programme relais de consolidation, qu'à un certain moment, on n'arrive toujours pas à faire passer clairement les messages. Ce qu'il faut souligner ici, c'est d'abord le fait que les programmes économiques du gouvernement, c'est comme on dit, c'est un programme que le gouvernement lui-même s'est assigné. Et ce programme était soutenu par le Fonds monétaire international et il visait la réalisation d'un certain nombre de réformes structurelles et sectorielles qui devraient permettre de baliser les cadres macroéconomiques, de créer un environnement qui est propice à la croissance pour relancer l'économie et arriver quand même à diminuer le niveau de pauvreté de notre pays.
Est-ce que l'État congolais à ce jour est arrivé à diminuer le niveau de pauvreté?
Non, des efforts doivent encore être faits parce que ça, ce n'était qu'un programme qui devrait d'abord stabiliser les cadres macroéconomiques afin de permettre qu'il y ait beaucoup d'investissements, surtout privés, et l'amélioration des différentes structures de l'économie pour que l'économie soit apte à créer des emplois, à diminuer les niveaux de pauvreté et à améliorer les niveaux de la croissance au niveau de l'économie. C'est pour moi, c'est d'abord un programme du gouvernement. Donc le gouvernement s'est dit, l'économie telle qu'elle fonctionne, il y a beaucoup des réformes qui doivent être initiées si on doit escompter une certaine croissance. Il y a des réformes qui doivent être réalisées pour lesquelles le gouvernement n'avait pas de moyens. C'est ainsi que les fonds monétaires et d'autres bailleurs sont venus pour dire « Nous voulons appuyer le gouvernement dans ce qu'il veut mettre en place comme programme. » Et à ce moment-là, on est en train de suivre si le gouvernement réalise les différentes mesures et objectifs qu'il s'est assigné au terme de ces programmes, afin qu'à terme qu'on aboutisse à la relance de l'économie, à la diminution de la pauvreté. Donc à ce jour, si on dit que le programme a été suspendu, nous avons des questions que nous nous posons. Comment, si sur les 6 revues, 5 revues ont été conclues satisfaisantes, comment voulez-vous que la dernière revue d'un coup ne soit pas satisfaisante? Et le gouvernement, quelles sont les réponses que le gouvernement peut nous donner aujourd'hui sur toutes ces mesures structurelles et sectorielles qui devraient être initiées dans l'économie congolaise afin de créer un environnement propice à la croissance et diminuer le niveau de la pauvreté? Doit-on nous limiter à ces critères-là qui sont imaginés et qui sont appréciés par les fonds monétaires pour dire qu'il y a tel critère qui n'a pas été rempli pour que le gouvernement arrête tout un programme qui s'est donné lui-même? Quelles sont les réponses qu'on devra nous donner? Et je crois que là, aussi bien de la part du Fonds monétaire que du gouvernement, il y a des choses que nous devons redire.
Monsieur Xavier Marais, vous qui êtes représentant résident du FMI en RDC, le fonds déjà alloué à l'État congolais, selon vous, a vraiment été bien utilisé?
Oui, tout à fait. Ce sont des fonds que la Banque centrale a utilisés pour faciliter les relations économiques entre la République démocratique du Congo et le reste du monde, en particulier payer la dette extérieure de la République démocratique du Congo, mais aussi faciliter les échanges commerciaux et c'est le but effectivement des appuis du Fonds monétaire, c'est pour permettre à la Banque centrale effectivement de faciliter les relations économiques et financières de la République démocratique du Congo avec le monde extérieur.
Quand vous parlez de dérapage, parce que vous avez accordé des entrevues à la radio Capi, vous parlez des dérapages dans l'exécution même de ces projets. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Non, nous parlons de certains, on ne peut pas parler de dérapage, mais disons de certains problèmes qui sont apparus dans l'exécution du programme économique du gouvernement. Prenons quelques exemples. Oui. Il y a eu, par exemple, quelques retards dans la mise en œuvre de certaines réformes structurelles. Donc, à ce niveau-là, nous avons constaté ces retards, nous en avons discuté avec les autorités qui ont pris des mesures pour remettre ces réformes sur des rails, comme on dit. Le deuxième point, et c'est ce que le ministre des Finances vous a dit, il y a eu un certain nombre de problèmes dans l'exécution budgétaire, ce qui fait qu'il y a eu des dépassements de certains crédits budgétaires qui ont entraîné un endettement de l'État vis-à-vis de la Banque centrale qui était supérieur à ce qui a été prévu. Là aussi, le gouvernement a pris depuis le début de l'année, des mesures énergiques pour ramener le train de vie de l'État, autrement dit les dépenses de l'État, en ligne avec ses propres ressources. Et ceci est très important parce que effectivement, cela va limiter l'endettement de l'État vis-à-vis du système bancaire et cela va empêcher le recours à la fameuse planche à billets dont on a souvent parlé, de triste mémoire malheureusement. Mais les actions actuelles du gouvernement sont de limiter les dépenses de l'État au niveau de ses propres ressources de façon à éviter le recours au financement bancaire intérieur et
puisque
donc à la planche à billets.
Les dépenses de l'État sont plus élevées.
Mais c'est par rapport à quoi?
Parce que vous dites que le gouvernement congolais doit limiter ses dépenses. C'est par rapport à quoi, effectivement?
Mais par rapport donc à ses recettes. C'est-à-dire, comme un bon ménage ou comme un bon, je dirais, père de famille, l'État a des revenus et l'État, à l'heure actuelle, n'engage des dépenses qu'à la hauteur de ses revenus. Il ne s'endette pas pour dépenser plus. Et ça, c'était une des recommandations fondamentales du Fonds monétaire. Et je tiens à saluer ici le ministre des Finances qui est en train de mettre ceci en œuvre. Malgré les difficultés que l'on peut imaginer, imaginez que vous êtes un ménage, vous avez un revenu, vous avez des dépenses, il y a toujours des demandes pour faire des dépenses supplémentaires.
Monsieur Xavier Marié, maintenant, je m'excuse, maintenant je vous invite, vous tous, à suivre en fait.
Il y a des contre-vérités que je ne peux pas laisser passer.
Vous allez intervenir, mais tout d'abord, je vous invite à suivre ce que la population pense de cette décision, sitôt qu'elle a entendu parler de cette décision du FMI. Qu'est-ce qu'elle a pensé directement? Et je vous propose de suivre ce son que nos confrères Freddy Lufualabo et Willy Akonda ont recueilli au marché central.
Je trouve que pour l'instant, ils ont raison que les gouvernements actuels ne gèrent pas bien l'argent. Oui, il faut qu'ils relancent leur coopération avec le gouvernement élu. Pour l'instant, le gouvernement actuel, ils ne font que s'approprier des biens matériels et financiers. Donc, tout c'est pour eux, parce qu'ils préparent leur sortie.
Nous avons pris la décision de Bangoua na Bazu. Écoute, Bazu, décision en retard. Les décisions de Bazu avant pour. Batuba pie mbongwana ezalika ka bakunzo bazoka mbabiso po mbongwana ba pesi esali ata musala moko na mboka te tala ba balabala mabulu ezali eloko moko esala mina mboka te.
Aujourd'hui le FMI donne l'argent, l'émetteur touche moins de $10 et le même FMI qu'on reconnaît que l'argent des soldats est détourné.
C'est une décision solitaire, d'autant plus que cet argent a été mal géré. Cet argent, au lieu de servir le peuple, a servi à un groupe de gens qui sont au pouvoir. Je crois que le peuple congolais ne doit pas souffrir des injustices de ces gens-là. Parce que ce gouvernement, c'est un gouvernement de misère, un gouvernement meurtrier, un gouvernement que tout le monde a décrié. S'ils étaient responsables, ils allaient démissionner.
Je soutiens FMI, je dis c'est bien, parce que l'autorité congolaise est irresponsable. Et sans volonté, il n'a pas d'amour pour sa population, quoi. Donc je soutiens. Je préfère qu'on souffre parce qu'on souffre déjà. Donc il y aura pas de changement. Que le FMI nous donne de l'argent ou pas, il y a pas de changement. Donc je préfère que ça reste comme ça.
Je vais d'abord un peu traduire. Donc il y a un de un des habitants qui a parlé en Lingala, et lui, il disait ceci, le monsieur que vous venez de suivre là en Lingala, il dit qu'il se réjouit de la décision du FMI. Selon lui, pareille décision aurait dû être prise depuis longtemps, parce que ce sont les dirigeants actuels qui ont l'habitude de détourner les financements extérieurs. Il soutient que ces financements n'ont jamais servi au développement du pays, évoquant notamment la dégradation des routes. Voilà, c'est à quoi conduit donc cette décision annoncée du FMI. Monsieur le ministre, votre réaction?
Madame, ou bien c'est nous, le gouvernement, qui communiquons mal, ou alors c'est vous, la presse, qui communiquez mal. Le FMI a bien dit, il ne donne pas l'argent au gouvernement de la République pour son budget. Monsieur Marais vous l'a bien précisé. Si nous avions réussi la sixième revue, qu'aurait-nous attendu du FMI? 40 millions de dollars au travers de la Banque centrale. Ce ne sont pas les 40 millions de dollars qui vont changer la République.
Monsieur le ministre,
excusez-moi, une
petite clarification. L'argent versé ou l'argent remis à la Banque centrale, c'est l'argent donné à qui? C'est pas à l'État congolais?
Mais à entendre, excusez-moi, que je continue.
Oui,
parce que
si vous pouvez clarifier au moins cette question. L'argent remis à la Banque centrale, c'est pas remis à l'État congolais?
40 millions à l'État congolais que nous n'aurions pas, ce n'est pas cela qui va changer le cours de vie du gouvernement congolais pendant les 6 mois à venir. Donc, quant à dire que nous avons rupture avec le Fonds monétaire, je dis non, nous ne sommes pas en rupture avec le Fonds monétaire. Et pour répondre à cette question, il faut d'abord revenir au programme. Et c'est quand je disais à des contre-vérités, lorsque Monsieur Kamwanya,
Lemse Kamwanya,
oui, dit à votre question, est-ce que le gouvernement congolais a pu résoudre la pauvreté pendant les 4 années du programme? Nous n'avons pas encore résolu le tout, mais il y a des efforts importants. On juge la réduction de la pauvreté au travers de la croissance. Nous avons une croissance économique soutenue depuis 4 ans. Nous avons une stabilité de la monnaie qu'on ne veut pas nier. Mais cet objectif, la réduction de la pauvreté, elle est à terme. Mais il y a des efforts qui sont faits et qu'il faut reconnaître. Les structures, les réformes structurelles que nous avons entreprises, qui n'ont pas toutes été accomplies, mais ce n'est pas cela qui fait que nous n'avons pas réussi le programme. Encore une fois, le programme est arrivé au 31 décembre. Nous avons connu des dérapages au niveau des critères quantitatifs, particulièrement au niveau de la gestion des finances publiques, qui a fait que nous n'avons pas pu conclure la sixième revue. Mais M. Marais vous l'a dit, au 31 mars, nous avons rétabli ces critères. Mais il se fait que le 31 mars était la date à laquelle l'appui financier qui accompagnait notre programme économique était arrivé à terme. Et n'oubliez pas un facteur important, nous sommes à la veille des élections. Et tout pour nos partenaires en développement, il va de soi qu'ils attendent négocier un nouveau programme avec un gouvernement issu des élections.
Monsieur le ministre, ces réactions des habitants donc des Kinshasa qu'on a recueillis au marché central, qu'est-ce qu'elle vous inspire?
N'est-ce pas un manque
de confiance entre les habitants et son gouvernement?
Parce que le peuple, dans les réactions, confond le rôle du Fonds monétaire. Disent, Fonds monétaire a donné l'argent, il a bien fait de ne plus donner. Mais non, nous ne sommes pas en rupture avec le Fonds monétaire. Nous avons mal communiqué peut-être.
N'est-ce pas parce que la population effectivement ne voit pas à quoi sert cet argent finalement?
Alors ça c'est un autre problème. Si on veut voir l'impact de ce que nous avons en ressources extérieures venant de nos partenaires extérieurs, ce sont les ressources de la Banque mondiale. Ce n'est pas les ressources du Fonds monétaire. La Banque mondiale finance des projets. Et là, c'est complètement faux, madame, de dire qu'il n'y a rien qu'on se voit. Je prends l'exemple. Vous qui habitez Kinshasa, aujourd'hui partez sur l'avenue Kasavubu, du boulevard du 30 juin jusqu'à Kitambo Magasin. Cette route a été réhabilitée comment? Cette route aujourd'hui, vous roulez à du 120 à l'heure.
C'est un bon exemple, monsieur le ministre,
je vous donnerai également
un autre exemple, la route Beaumarchais. Ça fait,
On ne peut pas tout faire, madame, on n'a pas encore les moyens de tout réhabiliter. Nous venons de réhabiliter la route de Matadi, nous sommes en train de faire des projets à l'intérieur du pays. Et comme on a dit, la croissance va se réaliser à terme. Ce n'est pas en 4 ans qu'on va rétablir ce qui a été démoli pendant 40 ans.
L'UMS Kamwanya, quelle est votre réaction et votre analyse des faits et de tout ce que vient de dire Monsieur le ministre?
Moi, je crois que nous avons essayé à maintes reprises de suivre différentes revues du programme économique du gouvernement. Je pense qu'il y a quand même des choses. Je crois que le ministre des Finances est là, il peut s'y témoigner. On a déploré à maintes reprises que le gouvernement avait un train de vie très élevé. On a vu les vice-présidents, beaucoup de ministres, beaucoup de conseillers qui étaient tout le temps en déplacement. On a même publié des chiffres sur les dépassements des lignes budgétaires qui étaient là. On a déploré le fait que la chaîne de la dépense, à un certain moment, elle ne fonctionnait pas de manière aussi parfaite. Les représentants du FMI viennent de nous montrer ici que l'endettement du gouvernement vis-à-vis du système bancaire a dépassé les plafonds qui avaient été arrêtés. À maintes reprises, on a décrié que la solde militaire était détournée, il y a eu la corruption. C'est ce qui fait qu'au départ, je me suis dit, dans les programmes économiques du gouvernement, ces programmes avaient un objet. Il y avait un nombre de réformes structurelles et sectorielles qui devraient être mises en œuvre. Et parmi ces programmes, je prends ne fût-ce qu'un seul critère, la bonne gouvernance. Je peux citer la bonne gouvernance, je peux évoquer la lutte contre la corruption. Ce sont des mesures qui devraient, des réformes qui devraient être réalisées au terme de ces programmes. L'objectif ultime, c'est là que je voudrais un peu, peut-être le ministre m'a mal suivi, je me suis dit, l'objectif du PEG, c'était arriver à créer un environnement propice, favorable à la croissance, de façon à entamer déjà la réduction de la pauvreté. Bien entendu que pour réduire la pauvreté, c'est un phénomène qui se constate à long terme, et même, on devrait déjà l'amorcer. Quand on a mis en place les PIR, il devrait s'accélérer avec les PEG pour que, après les PEG, on devrait mettre notre programme, notamment les PMPTR, on devrait aboutir à réduire de façon significative.
Monsieur Lams Kamwanya, donc il y a des termes que vous utilisez là et que nos auditeurs peut-être n'arriveront pas à suivre. Donc, si vous pouvez expliciter un peu vos propos.
Parce que quand il y a eu la reprise de la coopération, en 2001, le gouvernement a conclu ce qu'on a appelé le programme intérimaire. Donc le pire, le programme intérimaire renforcé. Ces programmes avaient comme objectif de casser, parce qu'on constatait que l'hyperinflation était tellement élevée, les prix augmentaient chaque jour, la monnaie se dépréciait à tout moment. Ces programmes avaient pour objet de casser le rythme de l'hyperinflation et d'arriver un peu à stabiliser l'environnement macroéconomique.
Excusez-moi, je vais vous interrompre encore un moment. Donc parlons des termes simples. Pensons à la population.
Voilà. Quand je parle de l'hyperinflation, c'est-à-dire on voulait d'abord éviter que casser la spirale des prix. Il fallait éviter que les prix qui montent chaque jour et la monnaie qui se déprécie du jour au lendemain. Il fallait arrêter ça, arriver à stabiliser la valeur de la monnaie nationale, arriver aussi à stabiliser les niveaux des prix. Ça, c'était l'objectif qu'on avait dans le programme intérimaire renforcé qui s'est soldé par une note satisfaisante. Après ce programme, le gouvernement est passé à un deuxième programme qui est le PEG, le programme qui est mis en cause aujourd'hui. Dans ce programme, on s'est dit il y a un certain nombre de réformes qui doivent être initiées dans l'économie congolaise. Il faut par exemple améliorer la bonne gouvernance, il faudrait par exemple réhabiliter les infrastructures de base, il faudrait par exemple lutter contre la corruption, et toutes ces réformes devraient être réalisées de manière à faire en sorte que l'environnement économique du Congo soit le plus attrayant pour favoriser l'émergence des investisseurs qui devraient créer des emplois et réduire la pauvreté. Et le FMI, quand il a conclu cet accord, quand le FMI est venu soutenir cet accord avec le gouvernement, ils se sont mis à vérifier pour voir si toutes les mesures que le gouvernement a annoncées ont été respectées. Si la gestion des finances publiques par le gouvernement était quand même correcte. C'est là qu'on a senti que, par exemple, au point de vue gestion des finances publiques, il y a eu de nombreux dérapages. Les dépenses ont excédé les lignes budgétaires qui étaient prévues. Et à un moment donné, on sentait qu'il y avait une mauvaise répartition des revenus au sein de la population.
Monsieur Lams Kamwanya, je m'excuse. Oui. Les questions que nos auditeurs se posent ne sont pas là. Auditeurs veulent savoir, par exemple, Gabin, Kilumbu, depuis Lubumbashi, quel sera le sort des fonctionnaires et militaires après cette dure décision prise par le FMI? Nos auditeurs veulent savoir si cette décision du FMI a un impact direct
ça
sur eux.
Ça n'a aucun impact.
Monsieur,
Monsieur
Lems Kamwanya, laissons Monsieur le ministre répondre à cette question.
Merci. Lorsque Monsieur Kamwanya dit que le train de vie, que M. Marie l'avait souligné déjà, de l'État, et qui souligne des crédits, beaucoup de crédits étaient en dépassement, et c'est pour cela que nous avons dérapé. Je dis au 31 mars, madame, nous avons établi les équilibres. Au 31 mars 2006, pour satisfaire à la curiosité théorique et intellectuelle de M. Camonia, nous avons satisfait ces critères. Mais répondre à la question de votre auditeur, et c'est cela le but de notre émission, c'est que le peuple puisse nous comprendre, eh bien, le fait que nous avons une suspension du programme formel avec le Fonds monétaire n'influe pas sur ni nos ressources intérieures, ni sur nos obligations vis-à-vis des fonctionnaires. Ils vont continuer à être payés tels que nous avons prévu dans les crédits 2006. Parce que l'impact de la suspension du programme, c'est au travers des appuis budgétaires que nous attendons de la Banque mondiale et du fonds, et de la BAD. Et ces appuis budgétaires de l'ordre de 190 millions de dollars, comme vous avez cité au début, ne viendraient en fait impacter notre budget que vers la fin de l'année, vers le dernier trimestre. Donc nous allons, et nous avons été pendant les 4 années de programme, habitués à vivre sans appui budgétaire, et les appuis budgétaires arrivent vers le mois de novembre, décembre. Et donc la population n'a rien à craindre. Tout se passera normalement, puisqu'il est établi que nos partenaires extérieurs attendent que ce pays aille aux élections, et que le gouvernement issu des élections va négocier un nouveau programme. Et donc ce gouvernement issu des élections, en rétablissant le programme formel, va faire décaisser les appuis budgétaires avant la fin de l'année.
Monsieur le ministre, suivons cette question d'un auditeur de Mbandaka.
Monsieur Jean-Louis Bossifa, je suis à Mbandaka. Est-ce que la décision du FMI ne va pas influencer le processus électoral dans notre pays? Et si oui, qu'est-ce que les autorités prévoient pour y remédier?
Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez répondre à cette inquiétude de cet habitant de Mbandaka?
Le processus électoral, madame, est financé à plus de 90% par l'Union européenne. Et à la date d'aujourd'hui, je crois il y a 2 jours, la commission électorale indépendante vous a montré le matériel final qui est arrivé, les bulletins sont déjà financés, tout est déjà financé par l'Union européenne. Et donc le Fonds monétaire n'a jamais financé les élections. Et le fait qu'aujourd'hui nous rentrons dans un programme informel qu'on appelle le programme suivi par les services du fonds avec le fonds monétaire n'influence pas du tout le processus électoral, ni la date, ni les modalités. Il n'y a rien à craindre. La population, c'est pour cela, madame, je vous disais que nous communiquons mal. Nous avons effrayé la population pour rien. Le fonds monétaire n'a pas...
C'est bien que vous soyez là pour les éclairer.
Mais justement, laissez-moi un peu l'occasion de le faire. Eh bien, le Fonds monétaire n'a pas rompu les relations avec notre pays. Et nous n'allons pas souffrir de cette suspension pour autant que nous réalisons les élections. C'est là le facteur, l'enjeu important. Si nous n'allons pas, le pays ne réalise pas les élections dans la date prévue, en ce moment-là, le pays n'aura pas un gouvernement issu des élections. Et nous avons ressenti la volonté exprimée par nos partenaires, qui est très nette, de ne plus négocier un programme économique avec un gouvernement de transition.
Xavier Marais, vous êtes représentant résident du FMI en RDC. Avant de prendre cette décision, le FMI a sûrement réfléchi sur les conséquences que pourrait avoir donc cette décision. Quelles sont-elles?
Eh bien, effectivement, vous vous doutez bien que le Fonds monétaire s'intéresse beaucoup aux évolutions économiques et financières de la République démocratique du Congo, surtout en période électorale. Et donc, la décision qui s'est imposée à nous, parce qu'effectivement, encore une fois, l'accord est arrivé à expiration avant que nous ayons pu conclure cette 6e revue. Il ne faut pas oublier ce caractère légal de la situation. Je crois qu'effectivement, il faut déjà préciser, on a souvent mentionné que à peu près 60% du budget est financé par l'aide extérieure. Et on a dit, si le Fonds monétaire ne vient pas en appui à la République démocratique du Congo, on va perdre ces montants. C'est faux. Il faut être très clair là-dessus. Pourquoi? Parce que la seule chose qui pourrait être remise en cause, ce sont les appuis budgétaires. Or, ceci ne représente pas grand-chose par rapport au budget. Si vous voulez, dans le budget 2006, le montant des dépenses et des recettes globales est estimé à 1100 milliards, pour arrondir. Or, les appuis budgétaires qui sont peut-être mis en cause à la fin de l'année, comme le disait le ministre, ne sont que de 85 milliards.
Donc pratiquement, il n'y aura pas des conséquences quelconques.
Je continue. Non. Donc si vous voulez, ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que tout ce qui concerne les financements extérieurs de projets, et en particulier l'organisation des élections, continue comme prévu. Et ça, je crois que c'est important pour le peuple congolais de bien comprendre ceci. Il n'y a pas d'interruption des projets financés par l'extérieur.
Oui.
La seule chose qui est remise en cause, indépendamment de l'absence de financement lié à la sixième revue qui irait à la Banque centrale, qui est de 40 millions de dollars environ, il y a, d'ici la fin de l'année, peut-être pour le mois de septembre, si nous n'arrivons pas à mettre en place un nouveau programme avec le Fonds monétaire, il y aura peut-être aussi quelques problèmes avec l'appui budgétaire que devaient donner d'autres partenaires au développement, mais qui ne se montrent que dans le budget de l'ordre de 84 milliards. Alors qu'est-ce qui va se passer? Si cet appui budgétaire, effectivement, ne pourra pas se concrétiser, parfois pour des raisons techniques, que va-t-il se passer? Le gouvernement va faire le point, au moins mettons peut-être de septembre, de la situation économique, de son budget. On espère, grâce par exemple à l'envolée des prix pétroliers, qu'il y aura de meilleures recettes pétrolières. Donc les recettes de l'État devraient s'en trouver confortées et elles permettraient de pallier ou de subvenir en particulier à un manque à gagner au niveau des appuis budgétaires.
Monsieur Xavier Maré, quelles sont les conséquences? Est-ce qu'il y a des conséquences directes sur la population?
Les conséquences directes?
Oui, sur la population.
Non, pas dans l'immédiat, si vous voulez, dans la mesure où effectivement les recommandations que le Fonds monétaire a faites au gouvernement et que le gouvernement applique d'ailleurs à l'heure actuelle, c'est effectivement d'exécuter son budget en fonction des ressources qu'il obtient, de façon à éviter un recours au financement intérieur et donc à la fameuse planche à billets, si vous voulez.
Pour qu'on n'assiste pas à l'inflation.
Exactement. Donc ça, c'est très important parce que cette stabilité économique va servir le pays. Et au niveau du peuple congolais, il est très important que l'inflation reste à un niveau modéré, que le taux de change reste stable, que la croissance continue. Et on aurait pu parler lors de cette réunion, effectivement, de la réussite, je dirais, du programme économique du gouvernement dans son ensemble. Il est certain qu'on aurait peut-être pu faire mieux sur certains points, mais dans son ensemble, si on compare les résultats obtenus sur la période de 3 ans par rapport à ce qui s'était fait avant, on pourrait noter, par exemple, que les salaires sont payés en temps. Alors qu'avant, il y avait des problèmes.
Je vous propose maintenant donc de suivre un autre son des cloches sur ces sujets, recueillis toujours par nos confrères Freddy Lufualabo et Willy Akonda au marché central de Kinshasa.
Il faudrait que le Fonds monétaire international continue à nous aider, peut-être mettre des garde-fous pour que ce qu'elle est en train de décrier par rapport à la gestion calamiteuse de ces pays puisse être endigué. Ils ont tous les moyens. Ils peuvent identifier où se trouve le mal et attaquer le mal par le doigt que de nous toucher, nous qui sommes le petit peuple, parce que nous, on en souffre beaucoup. Nous avons assez souffert. Nous avons quand même droit à la dignité.
La RDC est aujourd'hui confrontée à plusieurs difficultés, selon cette vendeuse qui s'exprime en Lingala et que nous venons de suivre. C'est pourquoi elle demande au FMI d'accorder une nouvelle chance aux autorités congolaises. Cela est-il possible, Monsieur Xavier Maré?
C'est ce qui se fait à l'heure actuelle. Enfin, c'est même pas donner une chance de plus. Je crois qu'il ne faut pas parler dans ce langage-là. Non, les autorités, suite à l'expiration de l'accord formel qui nous liait avec la République démocratique du Congo, nous ont demandé de continuer notre dialogue et notre appui, ne serait-ce que technique, pour suivre l'exécution du programme économique du gouvernement, jusqu'à, disons, de nouvelles négociations d'un nouveau programme formel qui se feront dès qu'un nouveau gouvernement sera mis en place. Donc, je crois qu'il ne faut pas parler de redonner une chance. Le dialogue n'a jamais été interrompu, comme vous l'a dit le ministre. Il y a eu un accord qui, juridiquement, s'est arrêté à un moment donné. Malheureusement, nous n'avons pas pu conclure la sixième revue et donc donner ce remboursement. En matière réelle, le budget est effectivement remis en cause pour une petite partie des appuis budgétaires qui étaient envisagés. Mais là, encore une fois, le gouvernement essaye de prendre des mesures pour éviter un impact important, en tout cas de la remise en cause de ces appuis budgétaires.
Et tout de suite, les opinions des auditeurs.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez poser des questions à nos invités? Par téléphone, composez-le 081 89 066 78.
Thérèse Bassoubi, bonsoir.
Bonsoir Broy Munganga. Nous allons commencer par Papa Mamba. Le FMI a raison d'agir de la sorte car le gouvernement actuel est ingrat. Il a beaucoup menti aux fonctionnaires. Hilaire Shaila, Lubumbashi, le FMI a bien agi. La population n'a jamais senti l'efficacité de son apport. D'ailleurs, si on se réfère à l'époque de Mouzé Kabila, il a dirigé le pays sans l'aide du FMI. Une autre réaction, celle de Oscar Nkolo à Kananga. Point n'est besoin de le démontrer. Le FMI a raison. Le 1 plus 4, caractérisé par la phagocytose des fonds publics, risquerait de cimenter la nation. Platon Agoma, si le FMI se désengage pour le soutien de la RDC au budget 2006, c'est une irresponsabilité de sa part, car il devait attendre la fin de la transition. Prof Pito à Kananga, notre pays est capable de se prendre en charge budgétairement grâce à son scandale géologique, à l'AMIBA, aux recettes provenant de nos douanes et à notre courant Dinga.
Merci beaucoup Thérèse Bassoubi pour ces opinions des auditeurs. Nous rappelons que nous en avons reçu beaucoup, beaucoup et que nous n'avons vraiment pas le temps de toutes les lire ici. Mais Lems Kamwanya, votre réaction par rapport à ces opinions des auditeurs?
Oui, moi ma réaction est simple, c'est-à-dire il y a des vérités qui doivent quand même être reconnues. Si nous reconnaissons que notre budget n'est pas financé à 100% par les gouvernements et qu'il y a des fonds qui proviennent de l'extérieur, je crois qu'il faut dire la vérité à la population pour dire, dès lors que les partenaires extérieurs ne nous donnent pas les moyens, comment les gouvernements entendent-ils couvrir ces différentes dépenses? La crainte, c'est que si le gouvernement est buté à une difficulté de moyens, que le gouvernement puisse encore recourir à la planche à billets, ce qui va entraîner d'abord une dépréciation de notre monnaie, ça va entraîner une augmentation du niveau général des prix. Et en définitive, ça ne peut augmenter que les malheurs de notre population. Je crois que les conséquences sont à ce niveau-là et que les avis des auditeurs, parfois les gens qui disent qu'il faut qu'on arrête ce programme-là, ou bien féliciter les FMI, parfois on ne s'imagine pas sur les conséquences à terme d'une telle mesure.
Ces opinions s'adressent également aux autorités congolaises. Monsieur le ministre Marco Bangouli, votre réaction?
Madame, j'ai dit et je continue encore à dire qu'il ne faut pas dramatiser cette situation. Parce que le programme économique du gouvernement a été une réussite. Et cela nous a été répété à Washington. Sur 3-4 ans, un pays qui sort des conflits, qui arrive à stabiliser sa situation macroéconomique, on n'en a pas vu beaucoup dans le monde. Nous avons réussi notre programme économique. Mais le cadre et l'accord de financement qui accompagnait notre programme est arrivé à échéance, à expiration le 31 mars. Et nous ne pouvions pas conclure la sixième revue. Mais le fait qu'on n'a pas conclu la sixième revue ne veut pas dire qu'il y aura catastrophe. Non. Nous continuons à gérer suivant les mêmes paramètres. Et lorsque M. Kamwanya dit du fait que nous recevons les ressources extérieures et qu'elles ne vont pas venir, nous devons dire la vérité, comment allons-nous financer notre budget, sinon nous aurons des déséquilibres. Mais je ne veux pas faire un débat théorique. L'autre budget, et M. Marie l'a dit, est financé l'impact des appuis budgétaires qui influencent effectivement le budget est à peine de 8% sur l'ensemble du budget. Mais le reste n'est pas interrompu. Les ressources extérieures vont continuer à venir pour financer les projets. Monsieur Marais l'a dit, parce que ça ne vient pas du Fonds monétaire, ça vient de la Banque mondiale et de la BAD. Eux n'ont pas suspendu leurs ressources extérieures.
Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir d'abord répondu à cette invitation. Également, nous disons merci à Xavier Marais, représentant résident du FMI en RDC, d'avoir également répondu à notre appel. Et également à Lems Kamwanya, expert économique et chargé de projet au comité des pilotages de la réforme des entreprises publiques. Et c'est ici que nous mettons un point final à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Elle sera rediffusée demain à 4h45, heure de Kinshasa, et vous pouvez la retrouver sur le site internet sur www.radiokapi.net.